Chants qu'on, quand on est devenu chrétien. Et puis, je suis certain que vous aussi, vous avez un chant qui vous a marqué, qui vous a, que vous avez aimé. Donc, c'est parti, ça. Comme vous avez pu entendre ce matin, vendredi soir, Luc m'a appelé pour m'annoncer que le pasteur n'allait pas bien. Et puis, que c'était évident qu'il ne pourrait pas être ici ce matin. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'ai dit, écoute, j'ai peut-être des prédications que j'ai faites dans le passé que je pourrais peut-être réchauffer, les présenter, puis les parler un petit peu. Mais en fin de compte, j'ai toujours des... Je pense que les personnes qui sont apportées à enseigner quelque chose, on a des ressources, OK, qui sont fiables, qu'on peut avoir. Puis je suis allé dans un, puis en dedans de 5 minutes, j'avais mon message en avant de moi. Et puis, c'est pas moi. OK, parce qu'habituellement, là, c'est quelque chose qui prend du temps, que je vais mettre ça devant le Seigneur, que je vais demander c'est quoi que l'Assemblée a besoin d'entendre. Puis, il va y avoir un temps de préparation, là, tu sais, puis des fois, je vais changer 2-3 fois. Mais là, c'était clair. Puis, c'est pas quelque chose qui est vraiment tout fait d'avance, là. C'est quelque chose que j'ai dû travailler. Mais c'est quelque chose qui va Ça va bien avec le style d'église qu'on a, puis les messages qu'on a besoin d'entendre pour quand on retourne dans le monde, que quelque chose qui va nous être utile. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de que fait le chrétien. Et puis, je vais commencer par une affirmation que je suis certain que je ne surprendrai pas personne, c'est qu'il y a une incompatibilité fondamentale entre le monde et le chrétien, celui qui a donné sa vie à Jésus. Donc, ça vaut la peine d'aller plus loin, avant de rentrer dans le cœur de mon message, de définir le mot qui va être utilisé ce matin, soit le monde. Et puis, on peut se poser la question, qu'est-ce que le monde? Bien, ce mot-là, ça peut simplement dire la Terre, les planètes que nous habitons, tout ce qu'on voit autour de nous, les gens qui y habitent, les choses physiques, les arbres, les étoiles, les fleurs. Et on sait que lorsqu'on prend la création, on sait que cette chose-là, elle est bonne. Okay? La parole nous dit que c'est bon. Okay? Donc, dans le sens-là, c'est qu'on se doit d'aimer le monde que Dieu a créé. Et lorsqu'on voit dans Jean 3,16 qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde que... Par amour pour nous qui êtes le monde, Dieu a envoyé son Fils unique mourir à la croix. Puis, il faut dire que dans ce verset-là, Dieu a démontré l'amour pour le monde. L'amour que Dieu a eu pour le monde est quelque chose, encore une fois, qui est bon, qui est bien. Par contre, lorsqu'on regarde l'épître de Jean, Jean 1, chapitre 2, les versets 15 à 17, on voit tout un contraste. Et Jean nous dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, lorsqu'on lit ce passage-là, il est évident que Jean ici pense à quelque chose d'autre que les deux premières choses que je vous ai parlé, les deux choses qui étaient bonnes. Donc, pour Jean, il parle ici, lorsqu'il réfère au monde, il parle de tout ce qui est contre Dieu. Et... tout ce qui s'oppose à Dieu. Donc, c'est ce monde-là qu'il ne faut pas aimer, contrairement aux deux premiers que je vous ai parlé. Et dans ce passage, nous voyons qu'aimer le monde veut dire être content avec et trouver son plaisir dans tout ce qui est opposé à Dieu, soit ouvertement ou peut-être en cachette. Mais le chrétien n'appartient pas au monde, il ne fait pas partie de tout ce qui s'oppose à Dieu. Cependant, il doit vivre dans le monde. Il est appelé à aimer les gens qui habitent autour de lui, mais de rejeter les valeurs et les systèmes qui sont contre les voies de Dieu. Donc, en résumé, Bien que le monde soit ce que nous voyons autour de nous dans la Bible, les références au monde parlent souvent de tout ce qui est contre Dieu. Le monde est compris. Le monde est compris comme tout ce qui s'oppose à Dieu, à tout ce qui se rebelle contre Dieu. Donc, lorsqu'on réfère au monde, la plupart du temps, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu. Okay? Donc, et Jean nous met en garde et nous dit de ne pas aimer le monde. Donc, l'incompatibilité que la première déclaration que j'ai faite tantôt, l'incompatibilité entre le monde et le chrétien, soit celui qui est consacré à Dieu, nous pousse à réfléchir sur certaines questions, nous pose à nous questionner. Pourquoi les choses sont ainsi? Où ça devient ça, cette incompatibilité? Et quelles en sont les conséquences, soit les conséquences pratiques ou théoriques? Aujourd'hui, on va regarder trois choses de la vie du chrétien selon l'apôtre Pierre dans un passage qui est 1 Pierre 2, 9 à 12. Et on va être capable de dire pourquoi le chrétien n'est pas comme quelqu'un du monde. On va pouvoir regarder comment le monde voit le chrétien, pourquoi le monde peut haïr ou haït le chrétien, et comment nous vivons cela ici au Canada, dans notre communauté, dans notre ville. On va regarder quelques outils que le chrétien qui vit dans ce monde-là peut avoir de besoin. Et on va voir comment un chrétien devrait plutôt approcher les choses du monde. Parce qu'il y a des façons qui sont enseignées dans la Bible, que la façon qu'on doit se comporter quand on fait face au monde, c'est un monde déchu-là qui est autour de nous. Donc, le titre du message, c'est « Que fait le chrétien? » Mais ça devrait plutôt être « Que doit faire le chrétien? » Je vais prendre ce temps ici. Avant de passer à la lecture du texte, je vais juste prier. Père Céleste, je crois que cette introduction qui a été faite, Seigneur, nous démontre très clairement, Seigneur, qu'il y a des choses qui sont opposées à toi. Et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, Seigneur, on ne peut pas se mêler à ça, on ne peut pas être confortable dans ces choses-là. Père, je te demande ce matin que par ta parole, tu puisses nous guider, tu puisses nous éclairer, et que nous puissions sortir d'ici, Seigneur, sachant que ces choses sont réelles, mais sachant aussi, Seigneur, que tu es avec nous dans des moments de tous les jours. Que malgré que ce monde nous haït, malgré que ce monde est déchu, sois toi, Seigneur, tu as envoyé ton Fils Jésus, afin que nous n'ayons pas à subir les conséquences, Seigneur, que nous méritions, avant que tu te charges de nous sauver. Et Père, je te prie de me guider et de pouvoir m'aider, Seigneur, à livrer ce message, Seigneur, qui est si important. Et que tu puisses être glorifié, Seigneur, à travers ces paroles, que les gens puissent sortir d'ici, Seigneur, ayant appris à mieux te connaître et savoir comment se comporter, Seigneur, dans ce monde déchu. Amen. 1 Pierre 2, 9 à 12. Pierre nous dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Donc, dans ces versets, je crois que nous pouvons voir trois choses, trois caractéristiques de la vie chrétienne. Trois choses qu'un chrétien devrait faire. Et vous n'aurez pas de surprise. Puis quand que je vais vous les dévoiler, vous ne direz pas « Wow! » J'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais su que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Je vous annonce rien de nouveau. Les trois caractéristiques de la vie chrétienne, selon ces versets, sont annoncer Dieu, s'abstenir du mal, puis avoir une bonne conduite. Donc, on va commencer par le premier point qui est d'annoncer Dieu. James Stewart, pas l'acteur, là, Jimmy Stewart, non? Mais James Stewart était un professeur était un professeur de théologie à l'Université d'Edinburgh en Écosse. Et un jour, il a déclaré que la plus grande menace pour le christianisme n'est pas le communisme, l'athéisme ou le matérialisme. La plus grande menace, c'est le chrétien qui essaye de se glisser dans le ciel incognito sans jamais parler de sa foi. Sans jamais parler de sa foi, passer toute sa vie faire ça, penser rentrer au ciel puis que Dieu va être fier de nous autres, c'est ça la plus grande menace au christianisme. C'est pas toutes les doctrines du monde, tout ça. C'est le chrétien qui fait pas sa job. François d'Assise, okay, Saint François d'Assise, il est crédité pour avoir dit « Prêchez l'Évangile tout le temps et si nécessaire de se servir des paroles. » Donc, il n'y avait pas tout à fait tort, parce qu'on peut annoncer l'Évangile sans parler. Mais, si on regarde notre passage ici, on voit qu'il dit « afin que vous annonciez ». Donc, François d'Assise n'a pas tout à fait raison non plus. Donc, c'est important d'en parler. Donc, si je viens à notre passage, Pierre, il dit « afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » On va revenir un petit peu plus tard, puis je vais parler du mot « afin ». Mais il dit clairement le mot « annoncier ». Cela implique qu'on doit dire quelque chose, qu'il faut parler, il faut raconter, il faut dire, il faut partager. Donc, pour la plupart des chrétiens, parler de notre... parler de notre foi est notre point faible. On a tellement de difficultés à parler de notre foi. On ne sait jamais quoi dire, comment dire, quand le dire. Mais savez quoi? C'est que notre faiblesse, elle ne nous libère pas de ce que dit Pierre. OK? Ce n'est pas à cause qu'on est faible qu'on ne doit pas en parler. Une des marques que nous devrions voir chez le chrétien, c'est qu'il annonce sa foi, qu'il parle de sa foi. Et cela ne veut pas dire qu'on devrait devenir des prédicateurs, puis louer le Centre Bell, ou non, le Centre Canadian Tire, puis rassembler des grandes foules, puis faire des grands rassemblements d'évangélisation. Non, ce n'est pas ça que Dieu s'attend de la plupart des chrétiens. Dieu, ce qui s'attend, là, c'est qu'il veut que nous parlions de Jésus dans nos familles. Il veut que nous parlions de Jésus avec nos amis, nos collègues. Même si parfois on n'a pas toujours toutes les réponses, okay, qui nous sont posées, aux choses qui nous sont posées, on doit être capable une fois de temps en temps de dire, écoute, là, je ne l'ai pas la réponse, là, ce que tu me dis, là, je ne suis pas certain, puis je ne veux pas te dire n'importe quoi, mais laisse-moi aller vérifier, puis je vais te revenir avec ça. Vous savez quoi? Bien souvent, il va dire, bien, OK, reviens-moi avec ça. OK, vous allez savoir à ce moment-là si cette personne-là est intéressée, est ouverte à recevoir l'Évangile. Donc, on peut dire, si tu veux, je peux m'imprimer. OK, donc, je vais revenir, je vous ai dit que je reviendrai avec le mot « afin » qui se trouve au verset 9. Il faut noter aussi que vous avez été sauvés. Quand vous êtes devenu chrétien, vous n'avez pas été sauvés pour vous-même, ni pour votre plaisir, ni pour votre bienfait ou votre amélioration personnelle ou spirituelle. Non, c'est que vous vous avez été sauvés pour une raison, c'était une raison, c'était afin que vous puissiez annoncer au plus grand nombre de personnes combien le Dieu qui vous a sauvés est merveilleux et magnifique, afin qu'ils puissent, eux aussi, être sauvés. Donc, avant notre passage, il y a les versets 7 et 8, et Pierre parle aux incrédules, puis il dit, ceux qui n'ont pas cru, parle de ceux qui n'ont pas cru, il parle de ceux qui sont dans les ténèbres, les ténèbres desquelles vous avez été appelés à son admirable lumière. Nous disons, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale pierre d'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. S'ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est cela qu'ils sont destinés. Donc, ici, il est question des incrédules, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui ont entendu la parole, qui n'ont pas cru. Mais il dit, vous étiez de ceux-là. Et maintenant, ce n'est pas ça que vous êtes. Okay? Donc, il y a une espérance, okay, que ces gens-là, à qui on parle, okay, ils vont accepter l'Évangile et puis ils vont devenir des enfants de Dieu. Donc, Pierre est en train de vous dire, vous qui connaissez la vérité, vous qui êtes sortis des ténèbres, c'est à vous d'annoncer le Dieu qui vous a sauvés. On va passer aux prochaines choses que le chrétien doit faire, c'est de s'abstenir du mal. Il dit, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, de vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'homme, à l'âme. » Donc, la chair est le désir naturel de faire ce qu'on veut, de se faire plaisir à tout prix. La convoitise de la chair est la tentation de satisfaire nos pulsions, les choses que nous voulons faire sans regarder à Dieu. La chair dit aussi, ben, je pense que vous l'avez tout entendu ça, c'est que si ça te semble bien, ben fais-le. Si nous la laissons faire, la chair nous tirera par le bout du nez dans les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc, la convoitise charnelle et la convoitise de la chair, c'est la même chose, c'est juste des expressions différentes. Et Pierre nous dit de nous abstenir de ces choses-là. Ce qui ne veut pas dire s'abstenir de tout ce que nous désirons, mais il veut dire aussi que nous ne devons pas courir après ces choses qui peuvent devenir un désir démesuré. J'aime jouer au golf. Okay? J'aime jouer au golf, puis si je m'écouterais, je changerais mon équipement deux fois par année. Puis j'aime les chars, puis je change mon char peut-être un peu plus souvent que je devrais, mais j'ai toujours des bonnes excuses. La dernière fois que j'ai changé mon char, j'avais un problème électrique, donc c'était une bonne raison, ça, pour changer. Mais je dois me contrôler. Puis je suis certain que plusieurs de vous, il y a des désirs que vous voulez faire, que c'est pas, vous ne devez pas faire ça à n'importe quel prix. Okay? Donc, notre tendance est bien souvent de tester ces choses-là. Et c'est de tremper nos orteils dans la piscine du plaisir. Se tremper les orteils. Et comme on le sait bien, okay, il y a une industrie qui est consacrée. Il y a plusieurs industries qui sont consacrées au plaisir, puis vous pourriez en énumérer ici. Et puis le porte-parole de cette industrie-là, c'est la publicité. Elle passe son temps à vous dire que vous avez des besoins, que vous avez certains besoins si vous voulez être content, si vous voulez être comblé. Mais vous savez, cette publicité-là, elle est menteuse. OK? En réalité, elle nous incite à nous plonger dans la piscine du plaisir, de nous abandonner au plaisir du monde et à abandonner le chemin étroit sur lequel nous sommes. Donc, elle nous présente tout gentiment tout ce que nous avons besoin, mais elle est elle est un outil de l'ennemi qui fait, comme notre passage nous a dit, la guerre à notre âme. Donc, l'ennemi qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, ça retrouve au chapitre 6, le verset 8. Est-ce que cela ne veut pas dire que nous sommes contre le plaisir? Pas du tout. Mais le plaisir n'est pas tout. S'amuser n'est pas le but de la vie chrétienne, même s'il est le but du monde. Ce que le passage nous dit ici, c'est de nous abstenir des convoitises charnelles. C'est de nous abstenir. Abstenez-vous de courir après les plaisirs qui vont vous détourner de votre Dieu. Donc, abstenez-vous des choses qui vont vous empêcher, qui vont mettre un frein à votre vie spirituelle. Abstenez-vous des choses qui vont vous retenir de la prière, de la Bible, qui vont détruire votre relation avec le Seigneur. Choisissez une meilleure route plutôt que de vous laisser prendre par les convoitises charnelles. Osons dire non au plaisir et dire oui aux choses de Dieu. Vraiment facile. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi aussi, quand je vois les publicités, je suis attiré. Quand je vois les choses du monde, moi aussi, je suis attiré. Ce n'est pas facile. Priez pour ça. OK? Donc, quand Pierre nous dit que les convoitises charnelles font la guerre à notre âme, il nous dit que la vie chrétienne, les disciplines chrétiennes sont parfois difficiles. Croyez-moi, il est beaucoup plus facile de s'asseoir devant la télévision et écouter un bon film sur Netflix que de sortir notre Bible et étudier notre Bible toute la soirée. Je suis le premier coupable. OK? Donc, cela, ça ne veut pas dire que nous devons nous empêcher de le faire, mais ayez un contrôle. OK? Prenez du temps pour faire les choses de Dieu. Il faut que essayer de nous garder les tentations. Il faut que fuir les tentations. J'ai une petite histoire aussi. C'est un récit qui a été conté par un auteur anglais du nom de Adrian Plast. Et il va nous raconter un moment donné où il a dû faire face à une tentation. Et on va voir comment il s'en est sorti. Il dit... Ouais, ben, je raconte l'histoire. Chaque matin, il prenait le train pour aller au boulot. Un jour, une belle femme est montée dans le wagon et ils ont parlé. Cela continuait pendant quelques semaines. Il sentait qu'il commençait à tomber amoureux d'elle et se sentait coupable. Il a pris la décision d'en parler à sa femme, Bridget, de la tentation qu'il ressentait devant laquelle il se sentait impuissant de résister. La réponse de la femme n'a pas été une « drama queen ». Okay? Elle n'a pas fait un drame comme certaines auraient fait. Tout ce qu'elle a dit à son mari, « Adrian, il faut que tu prennes un autre train. Okay? » Ça me rappelle le passage, il dit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de ses membres périsse, de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Donc, si on veut, cette dame-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a paraphrasé le verset que je viens de vous lire, qui est Matthieu 5, 29, et elle est en train de dire à son mari, « Si pour toi te rendre au travail de cette façon est une occasion de chuter, ben change de train. » On a tous nos combats. Si vous êtes une personne qui avait un problème avec l'alcool, ben restez pas dans un bar. Allez pas courir dans un bar. Si vous êtes une personne qui avait de la difficulté avec la fidélité, ben allez pas dans les bars, encore une fois, où il va y avoir des femmes autour de vous, puis ces choses-là. Donc, si vous savez, vous connaissez vos faiblesses, essayez simplement de les éviter. T'sais, ça peut être le gambling, ça peut être n'importe quoi, qui va nous attirer. Donc, c'est de fuir ces choses-là. Deuxièmement, prenons le temps de nous engager, je vous l'ai déjà mentionné, dans les choses de Dieu. Pas nécessairement juste des choses de l'Église, mais des choses de Dieu. Puis je pense que si vous réfléchissez comme il faut, vous allez en trouver. Nous ne laisserons pas la place pour les convoitises de la chair si Dieu est notre préoccupation principale. Donc, on passe à notre troisième point, qui est ayez une bonne conduite. Ayez une bonne conduite et respirez. Le passage nous dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Le jour où Dieu va les visiter, ils vont glorifier Dieu parce qu'ils ont vu votre témoignage à travers vos actions. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes tellement différents dans notre façon de vivre que nos voisins, les gens du quartier, est-ce qu'ils remarquent nos bonnes œuvres? Est-ce que nous vivons notre vie en accord avec ce que nous professons, ce que nous prêchons? Si notre voisin sait que vous êtes chrétien, est-ce qu'il peut voir que vous vous comportez comme un chrétien? Des questions à se poser, hein? Votre vie, la vie que vous vivez, est-ce qu'elle témoigne de votre foi? Donc, la vie dont Pierre parle ici, c'est une dimension pratique et une dimension morale. Faire du bien aux autres, c'est des choses qui sont bien simples. Être un voisin gentil et plein d'égards, oui, au fond, mais quelque part, dans notre façon de vivre, ça doit être capable de convaincre ceux qui nous entourent et qui sont dans leur état perdu, pécheur sans Dieu. Donc, les gens qui sont autour de vous, qui sont perdus, ils doivent être capables de réaliser qu'ils sont dans cet état-là. Cela ne veut pas dire que lorsqu'on est demandé de faire quelque chose, dire non, ben moi je suis chrétien, là, tu sais, vous autres vous n'en êtes pas, vous autres vous êtes des pécheurs, puis vous en allez tous en enfer. C'est pas comme ça que vous allez les attirer. Donc, il y a des façons qui sont plus douces. OK? Des façons que juste votre témoignage va faire, et puis c'est pas d'essayer de pointer du doigt ou bien de dire ben moi je suis meilleur que toi. Ils doivent être capables de le voir sans que vous parliez, contrairement à ce qu'on a parlé la première étape. Donc, notre honnêteté, notre conduite morale doit être telle que quand les gens nous regardent, écoutez bien ça, ils se sentent inconfortables parce qu'ils savent qu'au-dedans d'eux, qu'ils ne vivent pas ainsi et qu'ils vivent mal. OK? Sans parler, ils vont voir vous comporter puis ils vont réaliser qu'eux autres, ils marchent tout croche. OK? Ça fait que c'est un « pensez-y bien ». Mais surtout, je ne vous incite pas à faire la morale, je ne vous incite pas à montrer du doigt, je ne vous incite pas à être tellement différent dans votre comportement que vous allez les repousser. Comportez-vous de sorte à ce que vous allez les attirer. Je pense que, autrement dit, je suis en train de vous dire, servez-vous de votre jugement dans la façon dont vous allez vous comporter. Quelques temps passés, puis je regarde parce que je vous dis, là, j'ai pris un texte et je l'ai travaillé. J'imagine que cette survey-là ou cette étude-là a été faite, je dirais probablement une quinzaine d'années passées, à Princeton Religion Research Center. Et ils ont fait une enquête sur l'impact de la religion sur la vie au travail quotidien. Et ils ont fait une comparaison entre ceux qui vont à l'église, qui se disent chrétiens, j'imagine, et ceux qui ne vont pas à l'église. Et puis, le comportement qui a été étudié dans cette enquête-là était les suivants. Le vol des choses de bureau. Tu sais, celui qui fait des photocopies sans demander au boss, ou qui va voler ses plumes, ou bien, des choses que vous voyez tous les jours qui semblent anodines. Ils ont regardé aussi que bien souvent, quand une personne va préparer son curriculum vitae, il va exagérer, il va mettre des choses qu'il n'a pas vraiment faites pour essayer de se remonter, pour être capable d'avoir la job. Il va mentir. Et ils ont regardé aussi les jours de maladie que les gens prennent qui ne sont pas réellement malades. Et donc, ici, vous avez, en fait, vous avez la chose que vous avez le vol et le mensonge. Et il y a aussi l'exagération dans les déductions d'impôts. Donc, vous avez ici le vol, le mensonge et puis la tricherie. Puis, ça m'a fait penser quand Mélanie et moi, pour la compagnie, nous allons à Toronto, nos dépenses de voyage, pense que c'est à peu près 50 ou 52 cents du kilomètre. Et puis, aller à Toronto, ça représente à peu près 1200 kilomètres. Puis, c'est le fun d'avoir un chèque d'à peu près 600$ qui est considéré comme une dépense. Mais il y a un de nos collègues qui nous a dit, pourquoi vous ne déclarez pas comme quoi chacun dans votre auto? Voyez-vous comment c'est facile? Il faut dire, au lieu d'avoir 600$, j'en aurai 1200. Je ne ferai pas ça. Je ne le fais pas. Mais vous voyez, c'est comme ça que le monde pense. OK? Mais suite à cette enquête-là, suite à ce sondage-là, la conclusion a été que les différences sont insignifiantes ou une signification marginale. Donc, on peut en conclure que d'après l'enquête, il est presque impossible de distinguer dans le monde du travail qui sont les chrétiens et qui ne le sont pas. Donc, si on prend la parole de Pierre qui dit qu'il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera, dans un sens positif, nous comprenons que la vie que nous vivons va attirer l'attention des gens qui nous entourent. Certains vont nous calomnier parce que nous ne sommes pas comme eux, mais certains vont nous voir et ils vont être attirés par notre façon de vivre. Ils vont nous poser des questions et ils vont peut-être se repentir et croire. Dieu les visitera pour leur salut, qui est en fait, qui va être une visite de grâce. C'est pourquoi Pierre dit, sanctifiez vos cœurs, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Votre vie peut être attirante aux autres. Donc, c'est notre but de vouloir rendre notre vie attirante. Si ces paroles de Pierre ne sont pas prises... ne sont pas prises... Il manque un mot ici. Donc, nous pouvons penser qu'un jour, à la fin des temps... OK, s'ils ne sont pas prises au sérieux, on peut dire qu'à la fin des temps, quand Dieu va venir pour juger le monde, ceux qui auront rejeté Dieu vont pouvoir dire, en fin de compte, pour finir, les chrétiens avaient raison. OK? Donc, je dis souvent aux gens qui se moquent de moi quand que je parle de ma foi, parce qu'ils vont dire, tu sais, c'est du mensonge, c'est comme ci puis c'est comme ça. Moi, je leur réponds toujours, je préfère arriver au ciel et me faire dire que j'ai cru pour rien que de me faire dire que j'aurais dû croire. Donc, puis vous allez voir, quand vous allez dire ça à une personne, regardez-y bien les yeux, OK? Vous allez voir les yeux commencer à bouger comme ça. OK? Puis ils vont baisser, bien, ils ne seront plus capables de vous regarder. Ça, c'est parce qu'ils vont se questionner. Donc, je pense que c'est une bonne phrase à utiliser. Moi, je l'ai utilisée une couple de fois. À ce moment-là, il va être trop tard. OK? Puis la Bible nous dit un jour que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2:11. J'arrive à la fin du message, puis... J'en aurais beaucoup plus à dire sur ces versets-là. Il faut se limiter pour essayer de respecter le temps. Mais je vais vous dire deux choses qui sont importantes comme conclusion. Je m'adresse à vous et je dis, chrétiens, nous sommes différents. Retournons aux premières paroles du verset qui nous disait, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Regardez bien les mots qui sont choisis ici. Nous sommes élus, nous sommes choisis par Dieu entre des milliers de personnes, des millions de personnes. Et chrétiens, parce que nous sommes choisis selon les désirs de Dieu et son bon plaisir, si j'ai choisi de devenir chrétien, c'est parce que Dieu m'a donné la possibilité de le faire. Il m'a choisi le premier. Le passage aussi nous dit que nous sommes saints, nous sommes mis à part, OK, pour Dieu, pour son service et pour sa gloire. Il dit que nous avons été acquis, OK, nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Nous ne sommes pas plus, on n'est pas notre propre maître, nous appartenons à quelqu'un de grand qui est notre Dieu Tout-Puissant. Ce sont des choses qui expliquent pourquoi, ou ce devraient être des choses qui devraient expliquer pourquoi nous ne pouvons pas être comme le monde. Chrétiens, on n'est pas seul. Nous avons les autres autour de nous. Nous sommes, écoutez bien les paroles, il dit que nous sommes une race, une nation, un peuple, un sacerdoce royal. Ces mots-là impliquent que nous appartenons à des regroupements, à une gang, OK? On n'est pas tout seul. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de curieux, c'est que lorsqu'on regarde l'épître de Pierre, Pierre a écrit ses épîtres, ses lettres, à des chrétiens qui étaient dispersés, qui étaient au loin, parmi les païens, OK? Qui étaient entourés par un monde qui ne les aimait pas. Puis, même si ces gens-là avaient des difficultés, même s'ils se sentaient seuls parmi les païens, attristés pour un peu de temps dans diverses épreuves, bien, selon le chapitre 1, le verset 6, ils faisaient toujours partie de la famille de Dieu. Donc, comme nous le faisons ici, comme s'il nous semble que, si parfois, là, nous autres, là, on sent qu'on est tout seul dans notre petit coin, Hodgebury, bien, soyons encouragés, parce que on a le privilège d'appartenir à une église locale, mais notre famille est beaucoup plus grande que ça. Et quand on commence à réaliser que nous commençons à parler, on voit qu'on n'est pas tout seul. Stéphanie peut vous en témoigner, OK, à son travail. Elle s'aperçoit que bien souvent, à travail, la personne à côté d'elle est chrétienne. OK? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Mais quand on commence à faire ça, comme moi, j'ai embauché l'été passé une denturologiste, OK, pour venir travailler à mon bureau. Je me mets à parler avec elle. Elle a grandi dans des milieux chrétiens. Donc, si j'en avais pas parlé, elle ne l'aurait jamais su. Bien, on a eu des belles conversations. OK? Donc, on n'est pas seul. OK? On n'est pas seul. Mais il faut en parler. Si on n'en parle pas, si on ne parle pas, si on ne démontre pas, personne ne va le savoir qu'on est chrétien. Donc, pour finir, nous sommes un peuple qui a accès à la véritable présence de Dieu. Nous avons un accès libre au lieu saint de Dieu, un privilège à ne pas prendre à la légère, un privilège qui, dans l'Ancien Testament, était accordé seulement à un petit groupe de personnes. OK? C'était accordé seulement au grand prêtre, OK, de visiter le lieu saint une fois par année. Bien, nous, depuis que Christ est venu mourir sur la croix, qui a fait ce qu'il avait à faire pour régler le cas du péché, bien, si on accepte le Seigneur, nous, on a un accès libre à lui. Et bien souvent, on n'en prend pas conscience de ça. On a un nouveau sacerdoce et ce sacerdoce-là, cette intimité que nous pouvons avoir à Dieu, cet accès que nous avons à Dieu, bien, elle nous appartient. À nous qui appartenons à Dieu. Ceux qui le glorifient, ceux qui l'adorent, ceux qui lui obéissent et ceux qui le servent. Donc, je vais conclure avec ce qu'on a dit et pensez-y bien cette semaine. Que fait un chrétien ou que doit faire un chrétien? Il doit annoncer Dieu, il doit s'abstenir du mal et il doit avoir une bonne conduite. Amen. Amen.